Le rendez-vous des notaires. Les notaires des Hautes-Alpes vous informent.
C'est la question que se pose tout bon propriétaire qui souhaite vendre son bien. Fera-t-il une plus-value immobilière ? Aujourd'hui, avec Maître Carole-Olivier Impératrice, nous allons nous pencher sur le sujet. Alors Maître, qu'est-ce qu'une plus-value immobilière ?
Lorsque vous vendez un bien immobilier dont vous êtes propriétaire, vous devez calculer la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. Si le résultat de ce calcul est positif, vous vendez plus cher que vous n'avez acheté, vous réalisez un gain appelé plus-value. Si le résultat est négatif, vous réalisez une perte appelée moins-value. Par exemple, vous avez acheté un logement au prix de 100 000 euros. Si vous le revendez au prix de 120 000 euros, vous réalisez une plus-value de 20 000 euros, soit la différence entre les 120 000 et les 100 000. Si vous revendez le logement au prix de 90 000 euros, vous réalisez une moins-value de 10 000 euros.
Quelles sont les opérations concernées par l'imposition de la plus-value immobilière ?
Il s'agit des opérations suivantes. Donc, tout d'abord, la vente d'un bien immobilier, que ce soit un appartement, une maison, un terrain, une forêt, une terre agricole, qu'il soit détenu en pleine propriété, en démembrement de propriété ou en viager. Il peut s'agir également de la vente de biens ou droits détenus par l'intermédiaire d'une société civile immobilière ou d'un fonds de placement dans l'immobilier, d'un échange, un partage, un apport en société. Les biens immobiliers concernés sont ceux situés en France et également ceux situés à l'étranger, dès lors que le vendeur est domicilié lui-même en France. Des règles particulières vont s'appliquer pour les vendeurs de biens situés en France et domiciliés à l'étranger.
Est-ce qu'il y a des cas où on peut être exonéré d'impôt sur la plus-value ?
Oui, il y en a plusieurs et nous allons voir les plus courants. L'exonération la plus connue et pratiquée est l'exonération de la vente de la résidence principale. Aucun délai de détention n'est pour l'instant imposé par la loi, mais le bien doit constituer l'habitation habituelle et effective, c'est-à-dire l'habitation occupée la majeure partie de l'année. Le logement doit constituer la résidence principale au moment de la vente ou au moment de sa mise en vente. En cas de divorce, il suffit que l'un des ex-conjoints ait occupé le logement jusqu'à sa mise en vente, pour que l'exonération fonctionne pour les deux ex-conjoints.
Et pour la vente de sa résidence secondaire, bien là aussi, c'est un cas d'exonération, c'est ça ?
Alors, en principe, la vente de la résidence secondaire est taxée, mais elle peut bénéficier d'une exonération si certaines conditions sont réunies. Pour pouvoir en bénéficier, le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant au moins 4 ans et il doit s'engager à réemployer le prix de vente dans l'acquisition de sa résidence principale dans les 2 ans qui suivent la vente.
Le troisième cas, c'est la vente d'un bien dont le prix de vente ne dépasse pas 15 000 euros.
Oui, si la vente est réalisée par plusieurs personnes, en indivision, la quote-part de chaque vendeur ne doit pas dépasser 15 000 euros. Donc si on a 2 vendeurs, le prix de vente ne doit pas excéder 30 000 euros. La vente effectuée par le titulaire d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité peut également être exonérée de tout impôt quand les revenus du vendeur n'excèdent pas certains seuils qui sont réévalués chaque année.
Et concrètement, comment la plus-value immobilière est calculée et taxée ?
Le vendeur qui est titulaire d'une pension de retraite ou d'invalidité et dont les revenus n'excèdent pas un certain seuil pourra également bénéficier d'une exonération de l'impôt sur la plus-value sous certaines conditions. Les plus-values immobilières sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19% et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Ce taux de 17,2% devrait certainement augmenter avec la loi de finances 2026 de 1,4%. Donc ces deux taux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux vont s'appliquer sur tout ou partie de la plus-value qui va être calculée entre la différence entre le prix d'acquisition et le prix de vente comme on l'a vu avant. Si le bien est détenu depuis plus de 5 ans, l'imposition ne s'appliquera que sur un pourcentage de la plus-value réalisée car la loi a prévu des abattements pour durée de détention. Ainsi, au bout de 22 ans, seuls les prélèvements sociaux seront dus et au-delà de 30 ans de détention, la plus-value ne sera plus imposable. Par ailleurs, il est possible de minorer le prix de vente en déduisant certaines factures, comme les diagnostics, les honoraires du syndic pour l'établissement de l'état daté, les honoraires dus à l'agence immobilière qui a négocié la vente. Il sera également possible de majorer le prix d'achat, des frais payés donc lors de l'acquisition, de la commission d'agence et de certains travaux réalisés sur le bien. Concernant les travaux, il faut savoir que seuls seront pris en compte les travaux réalisés par une entreprise, et ces travaux doivent concerner des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration. Pour pouvoir déduire ces travaux, le vendeur devra fournir les factures d'entreprise ou pourra opter pour un forfait de 15% du prix d'achat s'il détient le bien depuis plus de 5 ans. Ces travaux ne pourront pas être déduits s'ils l'ont déjà été au titre de l'impôt sur le revenu. Enfin, il faut savoir que si le bien a été loué en meublé non professionnel, les amortissements pratiqués devront être déduits du prix d'acquisition. C'est une nouveauté depuis 2025.
Merci pour ces précisions, Maître Carole-Olivier Impératrice. Preuve, s'il en fallait encore, que pour une transaction immobilière, il faut vous faire conseiller par un notaire. À la semaine prochaine.